Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, Poutine au Proche-Orient.
Oui, le président russe se place comme faiseur de guerre et l'homme à la colombe, comme vous le disiez Jacques Munier. C'est pas lui quand même le président russe qui est à l'origine de la trêve de 5 jours dans le nord de la Syrie qui prendra fin demain soir. Là, ce sont les États-Unis qui ont négocié directement avec Recep Tayyip Erdogan. C'est en revanche bien lui, Vladimir Poutine, qui recevra demain le président turc pour tenter de trouver un accord de plus long terme. Quelle est la place de la Russie dans cette partie diplomatique et militaire, elle est relativement incompréhensible, la Russie étant depuis le début de la guerre en Syrie un puissant soutien du régime de Bachar el-Assad. Moscou semble en fait profiter notamment du désengagement américain et occidental, et pas seulement en Syrie, mais dans tout le Moyen et Proche-Orient, et même au Maghreb. Bonjour Julien Lossetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr, Couette-Quidan et chercheur associé à l'IFRI. La Turquie semble avoir l'oreille de la Russie et vice-versa. Quels intérêts communs se sont-ils trouvés ?
Eh bien écoutez, si vous voulez, déjà la Russie et la Turquie, ce sont deux acteurs qui se connaissent parfaitement. Et là, pour le coup, 13 guerres depuis des siècles ont permis d'améliorer cette connaissance entre ces deux pays. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que la Turquie, depuis son incursion militaire dans les zones kurdes syriennes, était sous le coup d'une isolation croissante. Avec la réaction à laquelle on a assisté de la part de Trump, les menaces de sanctions de la part de l'Union européenne, et cette Russie qui, partenaire diplomatique sur la résolution de la crise syrienne avec l'Iran, sous le cadre du processus d'Astana, une Turquie qui, au fond, n'avait que la Russie vers laquelle se tournait pour essayer de sortir par le haut, je dirais, d'une situation très très complexe et délicate, à la fois sur le plan militaire, car d'autres acteurs avaient les moyens de contrer la Turquie, mais aussi sur le plan diplomatique, parce que la Turquie était assez cernée.
Alors qu'il n'y a pas si longtemps, Julien Lossetti, pour insister sur ces relations entre Turquie et Russie, on avait peur que les avions russes entrent dans l'espace aérien turc. C'était fin 2015, un avion de chasse russe avait été abattu par les Turcs, et aujourd'hui les deux dirigeants semblent l'avoir oublié.
Alors, ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont passé sous le boisseau, je dirais. Et ça, c'est aussi à replacer dans le contexte d'une relation entre Poutine et Erdogan, une relation personnelle qui est très très riche pour être diplomatique, mais en même temps très très cynique de part et d'autre. Chacun des acteurs utilisant l'autre à son propre profit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sentir encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le chemin parcouru depuis 2015 et cet avion russe abattu par la chasse turque a été un épisode tout à fait marquant dans cette relation bilatérale. Et on se souvient que jusqu'à l'été 2016, donc 9 mois après cet épisode, Erdogan avait dû envoyer une lettre à Vladimir Poutine pour s'excuser de l'épisode, et ce qui ensuite avait permis de rétablir au moins partiellement la relation qui a repris son cours normal aujourd'hui, y compris sur le dossier syrien.
Normal. On est
passé très très loin d'un conflit ouvert à l'époque il y a encore un peu moins de 4 ans.
La Turquie s'est également mise à acheter des missiles anti-aériens S-400 à la Russie en début d'année. Notre invité Jenny Raflik nous en parlait la semaine dernière dans les enjeux internationaux. Qu'est-ce qu'on en a dit en Russie du fait de vendre des missiles anti-aériens à un pays qui, 4 ans plus tôt, avait abattu un avion russe?
Alors c'est un sujet qui fait débat en Russie. C'est une thématique quand même qui n'est pas perçue de façon monolithique, c'est-à-dire la seule vente de systèmes de défense antimissile à un allié de l'OTAN. Vous avez d'un côté des gens qui souhaiteront améliorer la visibilité de l'industrie militaire russe. Et là, les S-400 ont une dimension tout à fait symbolique, parce que c'est un système de défense très sophistiqué, très sensible aussi, parce que c'est pas seulement une défense antimissile, mais ça inclut des éléments de reconnaissance et de renseignement. Donc c'est tout à fait symbolique également. Et à l'heure actuelle, seule la Chine en a acheté jusqu'à présent. D'autres pays sont aussi en négociation, mais la Turquie est symbolique parce que c'est un membre de l'OTAN et un membre tout à fait significatif. Et de l'autre côté, en Russie, vous avez un autre pan, si vous voulez, de l'establishment qui mettra en garde sur l'utilisation qu'en fera la Turquie, à plus forte raison que Ankara souhaiterait qu'il y ait des transferts de technologie qui soient apportés par les Russes avec la livraison de matériel. Donc c'est quelque chose qui fait débat, y compris à Moscou où c'est un sujet quand même très sensible.
La Russie qui veut détourner la Turquie de l'OTAN ou alors en faire son cheval de Troie, on ne sait pas vraiment encore quels sont ses desseins. Julien Nocetti, Vladimir Poutine s'impose aujourd'hui dans les discours comme le grand vainqueur, le faiseur de paix, ce sont les expressions qu'on lit. En ayant fait quoi au fond? Est-ce qu'il est vrai de dire que la Russie a évité un bain de sang? Est-ce qu'il est vrai de dire que la Russie est un protecteur des Kurdes, par exemple?
Alors, si une protectrice. Ce qui est assez frappant, c'est que la Russie, depuis quelques années, depuis son engagement en Syrie en 2015, elle maximise ses avantages, mais en agissant assez peu, au fond. C'est-à-dire que d'un côté, elle assiste à l'affaiblissement des solidarités occidentales. Et là, dans le cas présent de ces derniers jours, les alliés européens et américains se sont encore une fois fâchés, ébrouillés. Ils sont opposés aux États-Unis, ce qui affaiblit l'OTAN une nouvelle fois, et ce qui contribue aussi à creuser la faille entre Turcs et Américains. Donc c'est une situation au fond tout à fait favorable à Moscou. Moscou qui sait parfaitement tirer parti des erreurs des autres et s'engouffrer dans la brèche, je dirais, comme en août 2013 d'ailleurs, lorsque le président à l'époque américain Obama avait décidé de ne pas frapper Damas en vertu de lignes rouges qu'il avait fixées. Aujourd'hui, on est dans une situation où Washington est une nouvelle fois en faiblesse, où la Turquie se retrouve isolée par le fait de son action vis-à-vis des Kurdes et Syriens, et la Russie observe et agit en conséquence. Donc il y a une façon très très tactique aussi d'agir au Moyen-Orient qui fait sa force. Il n'y a pas de grande stratégie russe, mais une tactique poussée à son paroxysme qui fait que la Russie sait sentir les situations.
Avec sur la question kurde, en deux mots, Julien Nocetti, les Russes qui effectivement, dans la ville par exemple de Manbij, dans le nord de la Syrie, a évité une attaque des troupes syriennes, des troupes turques et avec les Kurdes, mais qui par ailleurs, quand les Kurdes se faisaient massacrer à Afrin en 2018, eh bien protégeaient l'espace aérien, le contrôlaient, en tout cas ils ne sont pas intervenus. Donc une alliance de circonstances avec les Kurdes aussi.
Une liaison de circonstances, et je dirais même plus, ça serait peut-être une variété d'ajustement, comme les Kurdes le sont aussi pour les Américains, ce qu'on a très très bien vu malheureusement il y a quelques jours. Mais effectivement, vous faisiez référence à Afrin en début 2018, où les Russes avaient laissé les YPG, les miliciens kurdes dépendants du PKK dans la ville face à l'opération turque bouclier de l'Euphrate. Donc les Kurdes déjà à l'époque avaient été laissés à leur propre sort face à une situation qui était déjà très menaçante pour eux. Donc dans la situation actuelle, je pense que la Russie est prête à les abandonner si des intérêts supérieurs le commandent. Donc c'est une façon aussi très cynique et très réelle politique en fait d'agir sur le terrain. Et quand on parle d'alliance historique entre Kurdes, notamment syriens et la Russie, j'aurais tendance à nuancer un peu ce propos quand on voit ce qui se passe concrètement sur le terrain.
Julien Nocetti, vous parliez de la façon dont Vladimir Poutine a de s'engouffrer dans la brèche, en l'occurrence la place laissée vacante par les Américains. C'est vrai dans toute la région. On a vu Vladimir Poutine rendre visite la semaine dernière à la monarchie saoudienne. Il est allé à Riyad, allié des États-Unis de longue date, engagé dans un conflit froid avec l'Iran. C'est nouveau, c'est cette relation de confiance, comme il dit Vladimir Poutine, avec Riyad, où c'est un signal envoyé aux États-Unis, c'est quoi?
Alors, oui et non. Alors, non, parce que c'est une visite qui fait suite à plusieurs séquences où on a vu d'abord le roi Salman se rendre à Moscou à l'automne 2016. Donc c'est la première visite d'un monarque saoudien en exercice dans la capitale russe. Donc ça a été perçu de façon très très symbolique. Et deuxièmement, le prince Ben Salman s'est rendu, lui, à plusieurs reprises en Russie et rencontre Poutine de façon régulière, notamment dans le cadre d'un accord pétrolier qu'on appelle OPEP+, et qui fait interagir de façon très étroite les Russes et les Saoudiens pour stabiliser les marchés pétroliers. Et là, lorsque Poutine s'est rendu à Riyad la semaine dernière, Russes et Saoudiens ont une nouvelle fois scellé leur entente pétrolière. et qui est pour le coup assez historique, sachant que la Russie n'appartient pas à l'OPEP, hein, n'est pas membre de l'OPEP, du cartel.
C'est un allié.
Aujourd'hui, interagit très étroitement avec les Saoudiens. Tout à fait. Il a été également question d'accords commerciaux entre Russes et Saoudiens, qui là aussi sont au fond sont assez inédits, mais d'un autre côté font également penser que les Saoudiens ont la fâcheuse tendance à se servir de la Russie pour essayer de peser dans leurs propres relations aux Américains en proposant de nombreux contrats dans le domaine de la défense, de l'espace, etc.
Ouais.
Pour essayer de tirer des contreparties aussi à la Russie dans certains dossiers, dont la Syrie.
Julien Nocetti, un dernier mot très rapidement sur la Russie qu'on a vu intervenir aussi dans le processus de paix en Afghanistan en invitant à des discussions entre talibans et responsables politiques afghans, contrairement aux États-Unis qui avaient exclu ces derniers de la discussion. Quel jeu joue la Russie en Afghanistan après l'avoir envahi en 79 et occupé pendant près de 10 ans ?
Effectivement, on est presque au 40e anniversaire de cette invasion soviétique en Afghanistan. Donc Moscou c'est aussi connaît parfaitement le terrain, connaît bien les acteurs aussi impliqués dans le conflit actuel, et encore une fois observe aussi les erreurs commises par Washington depuis son engagement en 2001 après l'éviction de Ben Laden et des talibans. Donc c'est quelque chose qui est perçu avec peut-être moins de cynisme de la part des Russes que le Proche-Orient, que la scène proche-orientale, parce que les répercussions du conflit afghan peuvent être très directes et très douloureuses pour la Russie, sachant que l'opinion publique russe y est encore très sensible.
Merci beaucoup Julien Nocetti d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.